Une Durville, Pascal Paradis.
Où l'on parlera de musique beaucoup aujourd'hui avec le festival Art Rock qui se tient ce week-end à Brest en Bretagne avec le chanteur et compositeur de jazz belge David Links, mais auparavant encore et toujours l'esprit de mai 68 tel qu'il a soufflé dans la bande dessinée, Sophie Torlotin.
Oui, parce qu'il n'y a pas que Jacques Tardy à revenir sur les événements de 68. De nombreux albums de bande dessinée reviennent sur le beau mois de mai et notamment un numéro spécial du magazine Pilote avec entre autres Florence Sestac.
Moi j'avais 18 ans, j'étais pas encore majeure, j'étais mineure, mais 18 ans, voilà. Moi c'était extraordinaire, si je fais de la bande dessinée aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas eu 68, j'en referais pas, quoi. Moi il y a une porte qui s'est ouverte au moment de 68 où d'un seul coup les choses ont été différentes, j'ai entrevu qu'on pouvait effectivement vivre autrement, parce que moi j'étais provinciale et destinée à me marier et faire acheter un pavillon à crédit, faire 3 enfants à mon mari et vivre en province, quoi. Et donc ça me disait rien du tout, et d'un seul coup j'ai vu, oh, on pouvait faire autre chose.
Florence Sestac, c'est une plume de la bande dessinée française. Elle a notamment fondé Futuropolis, mais commémoration oblige, elle revient sur son fol été pour un numéro spécial donc de Pilote, Sophie Torlotin, qui ressemble à quoi?
Ça ressemble à un numéro de Pilote, mais avec des, voilà, c'est très disparate et dans les thèmes et graphiquement, puisqu'en fait il y a différents auteurs qui en une planche, qui en 3 planches reviennent à leur façon, réinventent mai 68. Alors faut juste rappeler que Pilote, hein, c'est un magazine d'abord hebdomadaire puis mensuel qui a été créé en 1959 par René Goscinny, hein, l'un des papas d'Astérix, et qui parut pour la dernière fois en mensuel en 89, qui est déjà revenu 2 fois lors de numéros spéciaux, et donc là, spécialement, c'est la 3e fois qu'il revient, on va dire, pour mai 68. Pilote, à l'époque, donc des années 60 jusqu'à la fin des années 80, ça a été un peu le laboratoire, la serre, où de jeunes pousses de BD ont poussé, donc tous les auteurs importants des années 70-80 et ont fait leurs armes.
Florence Sestac, par exemple.
Par exemple. Et c'est tout naturellement que pour ce numéro spécial 68, des jeunes auteurs de maintenant, des jeunes vingtenaires, trentenaires, reviennent, réinventent 68. Donc on y retrouve là des planches de Blutch, de Baru, de Manu Larsenet, Christophe Blain, Riyad Satouf ou encore le dessinateur Jules, hein, qui officie également à Charlie Hebdo. Des jeunes pousses qui, loin d'être nostalgiques, sont plutôt ironiques ou dans la satire. C'est Baru, par exemple, qui imagine un 68-art devenu alcoolique et racontant au bistrot son passé glorieux d'ancien hippie.
Ça peut arriver.
Ou c'est Blotch qui dessine, qui invente des dialogues imaginaires entre des révolutionnaires de chaque époque de 1830 jusqu'au dialogue impossible 68-2008. Ou encore Riyad Satouf qui invente le passé de personnalités en 68, par exemple Steven Spielberg
Mais
ou Nicolas Sarkozy.
Il n'y a pas quand même que des jeunes, Sophie, dans ce numéro spécial. J'imagine les vieux de la vieille, parce qu'ils sont encore là, les 68-art de Pilote.
Bien sûr, donc c'est Florence Sestac qui revient sur le 14 juillet 1968 où elle a déchiré un drapeau français et du coup a fait de la prison préventive alors qu'elle n'avait que 18 ans. Il y a Pétillon, vous savez, c'est l'auteur de l'enquête corse qui officie également à Charlie Hebdo, qui imagine voilà des planches cocasses où il se moque de la nostalgie de l'époque ou encore de la portée absurde de slogans simplistes sur la liquidation de l'héritage. Et puis il y a bien sûr Gottlieb, hein. Gottlieb, vous savez, c'est le grand nom de la BD d'humour, l'auteur des rubriques à braque ou des dingos dossiers, qui a participé à l'aventure de Pilote. Lui, il avait 34 ans en 68 et il n'a pas participé aux événements sous le prétexte que sa femme était enceinte.
Il n'y aurait pas eu ces problèmes familiaux, etc. J'aurais fait exactement pareil. Il ne faut pas le dire parce que tout le monde va se moquer de moi. Je suis un lâche, donc je ne serais pas allé sur les barricades pour prendre des bombes lacrymogènes et des trucs comme ça. Je suis très lâche. Je suis entré à Pilote en 65 et j'avais déjà fait même, je crois, les dingos dossiers pendant 2 ans et demi et je venais de commencer la rubrique à braque au mois de janvier ou février.
Ce Pilote, c'était peut-être pas annonciateur en 68, mais enfin il y avait toute cette mouvance de liberté aussi.
Faut pas exagérer, pas Pilote, pas Pilote. Les Pilotes étaient formidables par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais était annonciateur de rien du tout, je crois pas. Enfin, sauf si un sociologue ou un historien de la BD est là pour me contrarier, contredire. Je crois pas, mais c'est pas péjoratif ce que je dis là. Pilotes, c'était un des pour moi, j'ai passé 9 ou 10 ans qui sont les plus belles années de ma vie.
Mais en fait, Sophie, vous voyez des 68 heures partout. Gottlieb dit que non, il n'y est pas du tout.
Mais non, mais il pêche par modestie, bien sûr, Marcel Gottlieb. Pilote, c'est quand même important, puisque tous les grands auteurs y sont passés. Et puis, quand même, certains même sont partis de pilote, donc juste après 68, début des années 70, certains pour fonder Harakiri, c'est l'ancêtre de Charlie Hebdo, ou bien Fluide Glacial, c'est le cas d'ailleurs de Marcel Gottlieb. En 1975, il fonde Fluide Glacial, humour et bande dessinée. D'autres encore sont partis, par exemple Florence Sestac pour fonder Futuropolis, c'était le premier éditeur indépendant de BD qui a mis en avant les auteurs. Donc pilote, en étant un peu cette serre, hein, ce laboratoire de jeunes pousses, a contribué à faire passer la bande dessinée qui, à l'époque, dans les années 60, était encore réservé aux enfants, à le faire passer dans l'âge adulte et à faire émerger des auteurs qui ont compté.
Avec de l'humour et de l'irrévérence aussi.
Exactement.
Parce qu'il y a pas mal d'irrévérence dans Pilote. Donc numéro spécial mai 68, c'est pas mal, c'est toutes les plumes de la BD depuis 40 ans en un seul volume. C'est édité par Dargo et je vous promets, c'est, je crois, la dernière fois qu'on vous parle de mai 68 dans cette émission.
Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le Ouest France, s'il vous plaît ?
Oui, sur le présentoir.
Merci. Alors, jeudi 8 mai. Jeudi 8 mai, National, Saint-Brieuc. Alors, dans les Côtes d'Armor, donc profitez d'Aroc avec 0 euros en poche. Donc là, ouais, d'accord, il y a des expos, concerts, théâtre de rue, cinéma. Donc le festival commence aujourd'hui à Saint-Brieuc. Donc il y a plein de rendez-vous gratuits. Donc là, la sélection de Ouest France. Donc là, on va pouvoir écouter de la musique. Ce soir, du coup, on va avoir la soirée avec Holly and the Bollywood Orchestra, Rafale. Je suis hyper contente. Ça, c'est cool. Ça va être vraiment de la première. On va pouvoir voir ça aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti.
Un dicton populaire affirme que l'on ne passe jamais par Brest, il faut y avoir une raison d'y aller. Et la raison, la bonne raison d'aller à l'extrême ouest de la Bretagne, c'est le festival Art Rock, qui en est quand même à sa 25e édition. Ce festival commence ce soir et voilà donc le programme avec José Marinho et ses rencontres d'un jour.
Donc là, on va aller voir Jean-Michel Boinet, donc le directeur du festival Art Rock. Donc là, on s'approche de nos bureaux qui sont dans une petite rue dans le centre-ville. Donc là, c'est un peu l'effervescence, il y a un peu du monde dans tous les sens. On va traverser la route. Donc là, voilà.
Ce sont des missions dangereuses, mais ce sont aussi des éléments très intéressants de programmation, parce que je trouve que les musiques, notamment les musiques rock, la pop, le rock, le hip-hop, le jazz, ce sont des musiques qui sont très rassembleuses de public. Donc ça veut dire que le public vient très souvent pour l'ambiance festive des musiques. Et puis après, moi, l'idée du festival Art Rock repose sur le fait de faire cohabiter justement ces musiques avec du théâtre, avec de la danse, du spectacle de rue, des expositions d'art contemporain. Les points forts, je pense que cette année, c'est la création mondiale du nouveau spectacle de Royal de Luxe, parce que c'est un élément très attendu. C'est un nouveau spectacle donc du metteur en scène du Royal de Luxe, Jean-Luc Courcou. Ça s'appelle Les Cauchemars de Tony Travolta. Il s'agit d'une comédie musicale et on en attend beaucoup. Le public est très attentif en fait aux créations du Royal, parce que ce sont aussi une générosité d'une compagnie comme le Royal de Luxe, et aussi de présenter gratuitement ces spectacles au public. Voilà. Bon, dans 25 ans de festival, des gens comme Björk sont venus, mais aussi des gens comme Miles Davis, ou comme le groupe de hip-hop américain qui s'appelle Public Enemy. Cette année, les têtes d'affiche musicales, c'est à la fois le groupe franco-finlandais The Do, c'est le nouveau projet de Neil Naïm, c'est le nouveau spectacle de Camille, le nouveau projet musical qui va sortir en CD au mois de septembre de Kezia Jones, c'est une jeune femme remarquable qui vient aussi du Nigeria qui s'appelle Asha, et puis c'est une plétitude de groupes. Je pense à Blood Red Shoes, qui est un groupe qui ressemble un petit peu à White Straps et qui vient de Brighton. Je pense que baroque a un positionnement très différent de celui des transmusicales, on en parlait tout à l'heure, ou de grosses machines comme les vieilles charrues, ou de, même de la route du rock de Saint-Malo. C'est un festival, bon, voilà, qui a sa propre identité. Je pense aussi qu'un rock bénéficie du fait qu'il ouvre le bal estival des festivals. Donc c'est un lancement, en fait, on va dire à la fin du printemps, de tous les festivals d'été.
Tonnerre de Brest, Art Rock ne se déroule pas à Brest justement, mais à Saint-Brieuc. C'est pas tout près, mais c'est quand même en Bretagne, je bats ma coulpe. En tout cas, ce festival commence ce soir et se déroule tout le week-end avec en apothéose dimanche, Yael Naïm, Camille et Thomas Dutronc. A signalé aussi une expo sur l'art numérique. Camille, donc, à Saint-Brieuc pour ce festival Art Rock, mais on n'a pas fini avec la musique, même si on change de ton, de rythme et de ville.
Crow flying, dark and big as a tree to tree. He's black as the highway that's leading me. Now he's diving down to pick up on something shiny.
Cette voix-là est celle de David Lynx, compositeur et chanteur belge qui fraye avec le Big Bang de Bruxelles après avoir poussé la chansonnette avec celui de Count Basie, excusez du peu. David Lynx, 40 ans, se produit dans quelques jours à l'Opéra de Lyon. Oui, un jazzman dans un opéra, mais il est vrai que les catégories sont souvent trop étroites pour lui. La preuve dans son dernier album, le troisième, Changing Face, il est en duo avec la chanteuse Maria Joao et la cantatrice Nathalie Dessé, une rencontre signée Yasmine Chouaki.
I pack my bag of gun and I don't know where I'm going. The things are tough, they awfully rough, still I'm going. J'ai commencé à chanter très très jeune et puis j'ai habité chez un écrivain, James Baldwin, quand j'étais jeune, qui était comme mon père. Et là-bas, il y avait des gens comme Miles Davis qui venaient à la maison, Toni Morrison qui était comme sa sœur, Simone Signoret, tous ces gens-là. Et je me suis dit très tôt, je me rappelle que j'étais là-bas, chez eux, à la maison, et je me suis dit, si je fais ce métier, il faut que je ne peux pas être dans l'ombre de quelqu'un. Oh, you better believe when I get this million
dollars on my own. Est-ce que ça a un impact déjà sur votre manière de chanter, d'être entouré par 16 musiciens ?
Oui, oui, oui. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'avec eux, j'ai l'impression d'être avec un quartet, que c'est très souple. J'ai pas besoin d'être confiné entre les pêches et tout ça. Donc ce qu'on a fait pour essayer d'éviter de tomber dans l'approche crooner, où j'ai rien contre, mais ça, c'est tellement bien fait déjà par ceux qui le font. J'avais pas envie de reproduire ça, parce que ça aurait aucun intérêt, ni pour moi, ni pour les gens. C'est de donner chaque morceau à un autre arrangeur, et d'en faire comme des espèces de courts-métrages. Si j'avais pris un arrangeur pour faire tout, je suppose qu'on serait tombé dans l'approche traditionnelle chanteur big band. Et là, il y a des gens beaucoup plus jeunes et plus sexy que moi pour reproduire ça.
Donc 12 chansons que l'on peut visualiser peut-être comme 12 courts-métrages, vous les présentez.
Oui, oui.
Comme ça, est-ce qu'il y a un fil entre ces 12 chansons, une logique ?
Oui, c'est pour ça que j'ai appelé ça Changing Faces. D'abord, je voulais l'appeler Faces. Et puis j'ai vu dans un magazine de cinéma.
Ça rappelle le film de Cassavetes.
Oui, tout à fait. Moi,
par exemple.
Faire. Et puis les 12 histoires, c'est comme Shortcuts. C'est, elles ont toutes. L'un, ils ont à voir quelque chose avec l'autre. Et c'est vraiment un peu tout ce que je suis, cet album. Tout le rapport avec le passé, avec le futur, avec le présent, avec les autres voix. Les invités que j'ai dans l'album, comme Maria Joao ou Nathalie Dissé ou Yvan Lins, peut-être vous avez remarqué qu'il n'y a pas vraiment un chanteur vraiment de jazz dedans. Quand je chante avec Nathalie Dessé, on s'était rencontrés il y a 2 ans et on avait fait un festival ensemble. On respirait au même moment.
Est-ce que ça s'apprend le scat?
Je crois que c'est plutôt l'improvisation. Je crois que le scat ça a été officiellement inventé par des gens comme Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong, mais je crois que c'est quelqu'un comme Betty Carter dans les années 60 qui a amené le scat à l'improvisation. Le scat, c'était un début d'improvisation et le scat était lié aux idées qu'on avait. Par exemple, le scat des années 50, ça pouvait aller et là, je prends déjà des autres sons. Et la Fitzgerald, elle est partie de ces sons-là. Dans les années 60, elle a commencé à faire voilà. Et la Fitzgerald, elle a ouvert le champ. Je crois que les sons donne corps aux idées qu'on a. Si moi j'utiliserais les sons des années 50, je scléroserais les idées qui sont dans ma tête. Simplement, si moi j'ai envie de faire voilà. Quand j'étais petit, j'ai travaillé sur tous les disques d'Ella Fitzgerald et ça c'est ma vraie base. Et puis je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans et puis j'ai mis simplement ma main sur son bras et j'ai c'était égal à deux ans de conservatoire. Moi, j'ai jamais été à l'école vraiment pour rien, mais je sais que ça confirmait ce que je faisais. Voilà, simplement être avec elle ou, je les ai toutes connues parce que je voulais les toucher. Sarah Vaughan, Betty Carter, voilà.
Et toutes les scateuses, c'est ça qui vous...
Non, je crois que le scat, moi, ce qui est le plus important, c'est pouvoir chanter une mélodie. Moi, j'adore improviser, mais je trouve d'abord que la mélodie doit être chantée. Si on a des paroles, ça doit vivre les paroles. C'est ça qui nous diffère justement des instrumentalistes. Moi, j'adore improviser. Mais moi, je suis pas très, très friand sur les gens qui veulent scatter avant tout. J'aime d'abord pouvoir chanter un thème. Par exemple, pouvoir chanter extrêmement vite, ça permet de chanter extrêmement lent aussi. C'est finalement la même approche. Let it go. There's been more than you are to know.
David Lynx and the Brussels Jazz Orchestra, Changing Face. L'album est produit par Oplus Music et distribué par Harmonia Mundi. Il est en concert donc à l'Opéra de Lyon le 31 mai. Now I know there is you. À tous, Culture Vive avec Florence Ponce, réalisation Romain Ferré, Pierre Gros à la technique. Pour nous écrire, culture.vive@rfi.fr et pour nous écouter sur le site rfi.fr, nous écouter et nous podcaster. L'artiste plasticien Bertrand Lavier sera notre prochain invité. Il expose actuellement des totems africains en bronze. Bien à vous, à lundi.